Merci les amis. Alors ce matin, je n'ai pas prévu de parler sur Gédéon, mais j'aurais pu. Ça aurait été top aussi. Parce qu'effectivement, on continue notre série sur l'appel de Dieu. Donc il y a déjà eu un appel lancé ce matin, c'est magnifique. Et on se réjouit d'entendre les témoignages. On a plusieurs personnes, je crois que Jean-Jacques va le mentionner aussi tout à l'heure, mais il y a plusieurs personnes qui sont de retour de mission, Mariella, Nadia, on peut les applaudir aussi. Et puis ces dernières semaines, j'ai rempli plusieurs... recommandations pastorales pour des gens qui veulent partir, des gens qui s'engagent, et ça me fait tellement plaisir en fait de voir cette église où beaucoup viennent et envoient, et c'est avec joie qu'on envoie, c'est avec joie qu'on libère, on ne perd pas des gens, au contraire c'est une multiplication, donc c'est vraiment un plaisir. Donc ce matin, effectivement, on continue l'appel de Dieu. C'est déjà 11h et puis j'en ai pour une petite heure, mais ça va aller. Je vais parler vite, excusez-moi. On a regardé dans ces dernières semaines à l'appel de Moïse et puis à celui du prophète Ésaïe. Donc des appels bien différents, des contextes différents et puis des réactions différentes. Et on a vu que c'est ce même Dieu saint qui se révèle dans un temps précis, dans un timing précis, avec une mission, avec un appel particulier. Et je rappelle qu'au travers de cette série, j'ai vraiment à cœur que nous puissions saisir, nous rappeler encore que Dieu nous appelle aussi, chacun, chacune, dans nos journées, alors que parfois rien semble se passer, mais Dieu a un appel, Dieu nous montre son chemin, Dieu nous appelle à lui, parce qu'il désire nous utiliser. Voilà, il nous invite simplement à lui dire « me voici », il appelle, il qualifie, il équipe, et ça c'est le plus important, parce que nous on a toujours nos questions, pourquoi moi, je ne suis pas assez si, est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'appelle à ça, etc., etc. Alors moi j'aime bien voir le Seigneur comme un sélectionneur, hein. Ne restons pas sur le banc, hein, mais il faut vraiment comprendre qu'il y a un grand match qui est en train de se jouer. Et puis c'est lui qui a le plan du match. C'est lui qui est le stratège, il a la stratégie. Et il nous appelle sur le terrain dans une position précise. Parce qu'il sait pourquoi il veut nous mettre là. Il y a un rôle précis. Et puis c'est ensemble qu'on va mettre des goals, hein, dans le camp de l'ennemi. Vous soyez hockey ou foot, enfin peu importe. On va mettre des goals dans le camp de l'ennemi. Et bien sûr, c'est c'est en permettant que le salut de Christ soit accepté. Faire passer des hommes et des femmes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Alors on n'a pas tous la même fonction, c'est vrai, sur le terrain. Puis parfois on loupe des ballons. Combien de ballons j'ai loupé ? Tiens, vas-y, c'est à ton tour. Hein. Puis le ballon, il nous fait un peu peur des fois. Ça vous arrive d'avoir peur du ball ? Hein ? Non, on ne veut pas trop. Mais... parfois, nous, on loupe, mais il y a quelqu'un derrière. Il y a un autre qui va choper le ballon. Et puis, c'est ensemble. Le match, tout n'est pas juste centré sur ma petite personne et puis c'est moi qui dois mettre les buts. On est une équipe, on est une armée, on est une famille. Et ensemble, on avance. Mais on a une fonction, on a un rôle sur le terrain. Donc, prenons part au match, ne restons pas sur le banc. Amen ? Ni sur les chaises, hein, c'est pareil. Alors, ce matin, en fait, on va regarder un contre-exemple. C'est aussi intéressant, on a regardé des appels de héros extraordinaires. Mais là, on va regarder un contre-exemple. Quelqu'un qui a été oint, qui a été appelé, mais dont l'Éternel a dit quelque chose de terrible. Il a dit, je regrette mon choix. Dur, hein? C'est tellement dur d'entendre ça. Comment est-ce possible d'en arriver là? Que peut-on en apprendre? Alors cet homme, c'était le premier roi d'Israël. Il s'agit de Saül. Et lorsqu'on pense à Saül, on se souvient de sa relation, on se souvient surtout de sa relation conflictuelle avec David. C'est un peu ça qu'on retient. Puis on se dit, bon, de toute manière, il y a eu David, son successeur. Donc on passe rapidement sur Saül, c'était un mauvais roi, et voilà. Ouf, David est arrivé. Bon. Mais était-ce vraiment perdu d'avance? Est-ce qu'il aurait pu avoir une meilleure fin, une happy end? Et on oublie que Saül a été vraiment appelé. Il avait tout pour bien faire. Donc on va regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé ensemble. Et ce qui est important, c'est déjà de prendre note ou de comprendre les circonstances de cet appel. Alors je vous propose de lire quelques versets dans 1 Samuel chapitre 8, les versets 4 à 9. Et l'histoire de Saül, à proprement parler, se déroule dans les chapitres 9 jusqu'à la fin de 1 Samuel chapitre 31. Alors on lit ensemble. « Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux. » Et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Et c'est ce que Samuel va faire. Il va expliquer en fait quels seront quelque part les désavantages d'avoir un roi. Il va dire, ben voilà qu'est-ce qu'un roi pourra faire et qu'est-ce que vous ne pourrez plus faire. Mais le peuple va rester convaincu et ils vont dire ceci. Donc le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Voilà le contexte. Donc on est à nouveau dans un moment charnière, dans une transition. En fait, le peuple d'Israël veut un changement. Il demande un roi. On assiste à un changement de régime. C'est important. Israël va devenir une monarchie avec cette volonté d'avoir un chef qui les jugera, qui marchera à la tête de leur armée comme les autres nations. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu va appeler Saül. Alors, il est question de Samuel ici. Samuel avait les fonctions de juge, de prophète, de prêtre en Israël. Il était vraiment reconnu de tous. Il avait une grande autorité. Et c'est lui donc qui va devoir se charger de ce changement, de ce changement de régime, un peu à contre-cœur. Parce qu'on comprend bien là l'enjeu. Il se rend compte de l'impact spirituel. Le roi, c'était l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le seul vrai Dieu, celui qui les a libérés de l'esclavage. Et puis c'est lui qui les a choisis, c'est lui qui a fait d'eux un peuple, qui a fait, mais vous serez un peuple mis à part, vous serez un peuple consacré parce que je serai votre Dieu. Le Dieu unique. Mais ça ne semble plus suffire. Ils veulent un homme qu'ils pourront voir. Un homme qui répond à des critères humains. Un homme qui sera à la tête de leur armée. Alors, c'est intéressant, cette situation-là. C'est vraiment hyper important de saisir ce contexte. Mais c'est aussi intéressant de voir la réaction du Seigneur. Parce que comme pour chacun d'entre nous, il nous laisse le libre arbitre, libre de nos choix. Il a averti des conséquences, il a expliqué, il a redit. Mais il fait le choix de les laisser faire. Il va continuer à être fidèle à son alliance. Il va continuer à les aimer. Mais il accepte leur choix, comme avec nos vies. Il accepte donc ce choix. Il va leur désigner un roi en la personne de Saül. Et c'est donc à Samuel que revient le privilège de oindre et d'instituer ce premier roi. Alors, quelques informations sur Saül nous sont données dans les premiers versets du chapitre 9. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, ça c'est son papa, hein, c'est joli comme nom, Kis. Alors, certaines versions vont l'appeler Kish. Alors, moi, je préfère être fils de Kish que de Kish. Enfin, voilà. Fils d'Abiel, de Bécorat, fils d'A... faut que je me concentre parce qu'il y a tous ces noms. D'Afiar, fils d'un Benjamite. Donc, il était de la tribu de Benjamin. C'est un homme fort et vaillant. Donc, ça, c'est le papa. Et puis, il avait un fils du nom de Saül. Jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Et les dépassant tous de la tête. J'ai mis le verset 3 parce que ce sera pour le lien d'après. Les ânesses de Kish, père de Saül, s'égarèrent et Kish dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. » Alors, c'est intéressant qu'on ait quelques attributs aussi du papa, hein, parce que ce n'est pas toujours comme ça. Donc, un homme fort et vaillant, donc un homme de guerre, c'est un vaillant héros, un vaillant guerrier. Et puis, son fils, eh ben, on comprend qu'il est beau, qu'il est fort. Et en fait, avec les techniques d'aujourd'hui, on arrive à un petit peu imaginer à quoi ressemblait Saül. Voilà. Hein, grand, beau, fort. Un peu comme un Suisse moyen, quoi. Hein. Magnifique. Bon, je ne vais pas vous laisser trop longtemps cette image. Parce que je ne voudrais pas que trop que vous ayez des idées. Alors, voilà ce qui se passe ensuite. Mais c'est important ces critères-là. Hein, beau, fort, grand. Voilà. Donc, Saül est au service de son père dans l'agriculture. Et puis, il va donc à la recherche des ânesses perdues. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Samuel. Donc aussi un moment improbable, un moment auquel Saül ne s'attend pas. Il n'est pas du tout préparé à cette rencontre. Il n'a aucune idée de ce qu'il attend. Et puis, même, il ne passe pas très loin de la ville où est Samuel. Samuel, c'est le prophète, c'est aussi celui qu'on appelle le voyant à l'époque, hein, parce qu'il a des révélations, c'est l'homme de révélation. Donc, il passe près, en allant chercher ces ânes-là, il passe près de cette ville où il y a Samuel. Mais Saül ne connaît pas Samuel. Saül n'en a pas entendu parler. Et c'est le serviteur de Saül qui lui dit « Hé, mais tu sais, là-bas, il y a un homme, il est super connu. Il voit des choses extraordinaires. On pourrait lui demander, peut-être que lui, il va savoir où sont nos ânesses. » D'accord ? Donc, c'est avec cette idée-là qu'il va à la rencontre de Samuel. Donc, une rencontre un peu hasardeuse pour Saül, qui était en fait une rencontre préparée par l'Éternel. Donc on voit ici que Dieu avait tout préparé. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant « Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit « Voici l'homme dont je t'ai parlé. » C'est lui qui régnera sur mon peuple. Ok ? Donc voilà, vous avez un peu le tableau. Le peuple demande un roi. Il veut plus de l'Éternel comme roi finalement. Et puis Dieu leur donne ce roi-là. Mais on voit ce Saül un peu, voilà, hasard comme ça. Il va à la rencontre de Samuel. Quelque chose va se passer. Alors il va être finalement, il va recevoir son appel et vivre l'officialisation de sa royauté en 3 étapes. La première, c'est qu'il a été oint par Samuel, ensuite il va être présenté au peuple, et puis il va être ensuite confirmé dans sa royauté. Je vais repasser ces textes rapidement. Mais ce qui est intéressant déjà, c'est qu'il a été oint. Donc ce n'est pas une relation directe avec Dieu, comme on a vu Ésaïe qui a une vision, hein, une vision qui l'a amené à se mettre à genoux, qui l'a amené à la repentance, qui l'a amené dans la consécration. Ce n'est pas non plus le buisson ardent où d'un coup il y a une révélation de Dieu, où il dit « mais c'est moi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est moi qui te parle », avec un dialogue direct. Hein. Là, c'est par onction au travers de Samuel. Donc le verset 1 du chapitre 10, « Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül, il l'embrassa et dit « L'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois chef de son héritage ». Et puis, donc ensuite, il est présenté devant le peuple, un petit peu plus loin. Je vous le dis aussi, c'est les versets 17 à 21. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Il annonça aux Israélites, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Il redit un peu ce qu'on a lu dans le chapitre 8. « C'est moi qui ai fait sortir d'Israël d'Égypte, qui vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, celui qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances. Et vous lui dites, établis un roi sur nous. Alors, présentez-vous maintenant devant l'Éternel par tribus et par milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin clan par clan et le clan de Matri fut désigné. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. Voilà, donc ils ont tous passé en revue, mais finalement le choix a été fait, l'onction a été donnée, mais ils ont tous passé devant Samuel jusqu'à, on s'arrête sur Saül. Et puis ensuite, sa royauté a été confirmée après sa première victoire militaire. C'est au chapitre 11, les versets 14 et 15. Samuel dit au peuple, venez, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils s'y sacrèrent Saül roi devant l'Éternel. Ils y offrirent des sacrifices de communion devant l'Éternel. Et Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. Voilà, donc un petit processus de sélection intéressant, hein, qu'on peut garder, qui est bon. Il y a un choix divin, hein, il y a un appel de Dieu, il y a une communication devant tout le monde, et puis il y a une confirmation après un temps d'essai. C'est exactement ce que j'ai vécu pour être là devant vous à l'escale. Bravo, vraiment, extraordinaire. Bon, mais plusieurs choses me frappent dans ces trois étapes. Donc, dans la première étape, contrairement donc aux deux appels que nous avons vus ensemble, je l'ai dit, l'Éternel ne se présente pas directement, tout se passe par l'intermédiaire de Samuel, mais on a vraiment l'impression que Saül débarque, quoi. On a l'impression qu'il débarque un peu de la lune. Il ne semble pas vraiment concerné, et d'ailleurs, il n'a pas possibilité de répondre. Il n'y a pas une réponse de sa part. On a l'impression qu'il ne réalise pas ce qui se passe, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien du tout. Il ne répond rien. La seule chose que dit Saül, c'est lorsque Samuel fait des allusions par rapport à la royauté, donc il ne lui a pas encore versé l'huile, il lui dit que tout Israël ou tout en Israël sera pour lui et sa famille. Et puis la seule réponse de Saül, c'est « Pourquoi me tiens-tu ce discours ?» Hein, donc il n'y a pas du tout « Waouh, extraordinaire, qu'est-ce que tu es en train de dire ? Tu es un homme de Dieu, tu es un prophète, qu'est-ce que tu dis sur ma vie ?» Pas du tout, tu dis quoi là ? C'est la seule chose, mais il n'y a jamais un « me voici », il n'y a jamais un « oui », il manque ça. Et puis l'autre chose que je voyais aussi, c'est qu'en fait, ils sont en chemin. Je ne l'ai pas tout lu parce que ce serait trop long, mais en fait, il n'y a pas un moment extraordinaire, un moment où on s'arrête, un moment spécial, un lieu spécial. Ils sont en marche. Et puis Samuel dit, fais passer ton serviteur devant là. Puis du coup, il fait passer son serviteur devant. Puis là, il s'arrête, puis il lui verse de l'huile, puis il dit, voilà, maintenant tu vas être le roi d'Israël. C'est à peu près ça. Donc il n'y a pas de cérémonial, il n'y a rien. C'est comme ça. L'autre élément intéressant, mais tellement important, c'est qu'il va recevoir le Saint-Esprit. Il va recevoir le Saint-Esprit et un nouveau cœur. Samuel va le dire en ces termes. L'esprit de l'Éternel, est-ce que je l'ai mis ? Non, je l'ai pas mis pour vous. L'esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Et puis ensuite, au verset 9, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes se réalisèrent le même jour. Donc ça, c'est vraiment important. L'esprit est donné aux personnes choisies, mises à part pour l'Éternel. C'était évidemment un privilège, mais aussi une nécessité pour remplir son appel, son ministère. Bien que l'Esprit soit offert à tous aujourd'hui, en être rempli est toujours nécessaire et essentiel pour servir Dieu. Donc, il reçoit le Saint-Esprit un nouveau cœur. Et puis, lorsqu'il est désigné devant tout le peuple, je ne l'ai pas lu encore, mais ils ne le trouvèrent pas. Donc, il faut imaginer la scène, il y a tout le peuple qui est là, qui se rassemble. C'est le moment où on va sélectionner Saül. On va dire, c'est lui que Dieu a choisi. Et au moment où on dit son nom, il n'est pas là. Je ne sais pas, vous avez déjà vu ça dans les concours, dans les... le regagnant, etc., monsieur, tatata. Grand silence dans la salle, il n'y a personne qui vient. Mais c'est un peu ça qui est en train de se passer. Saül n'est pas là. Et ils se posent des questions, ils vont de nouveau consulter l'Éternel, mais il est où ? Il se passait quoi ? Et puis l'Éternel va dire, il se cache, j'ai dit, hein, il cherche de nouveau, on consulte à nouveau l'Éternel, il y a encore un homme, l'Éternel dit, il est caché vers les bagages. Donc Saül, c'est le plus grand de tous, une tête qui dépasse de tout le monde, hein, il était se cacher dans les bagages. Alors moi, j'imagine, bien sûr, image moderne, hein, j'imagine Saül sur le tapis de bagages à l'aéroport, là, qui joue et qui se cache derrière les bagages pour ne pas être vu. Hein. Il se cache. Donc, devant Samuel, il est pris au dépourvu, il ne dit rien. Il n'y a pas de réponse de sa part. Et devant tous, il est caché. Pas mal pour un nouveau roi, quand même. Pas mal, hein? Bon, c'est rassurant. Il semble motivé. C'est un candidat motivé, les amis. Bon. Mais tout le monde, malgré tout, va dire « Vive le roi !» C'est bon, vive le roi. Il est grand, il est beau, il est fort. L'Éternel l'a désigné. Vive le roi! Et puis, la confirmation de sa royauté se fait sur la base d'une victoire militaire, ce qui démontre bien l'attente du peuple. Le peuple veut un chef militaire. Ils veulent un chef de guerre. Donc, Saül, animé par l'Esprit de Dieu, a pris ses responsabilités, a remporté ce premier combat. Le peuple est content, les critères de sélection semblent avoir été les bons. Franchement, ça marche, il a gagné le premier combat. Ouais, vive le roi! Donc, on le garde. Mais bien qu'il ne paraisse pas très concerné et manquer d'assurance au point de se cacher, on peut quand même dire que Saül a reçu l'essentiel. Il a reçu l'Esprit de Dieu, un cœur nouveau. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Il a été choisi, il a été oint. Pourtant, les choses vont rapidement mal tourner. Et c'est intéressant de constater que le choix de l'Éternel, la réception de l'Esprit, finalement l'imposition des mains ou l'onction reçue par le prophète Samuel lui-même, appelé de Dieu, ne garantit pas la réussite d'un ministère. Et ça doit nous faire réfléchir aussi à nous. Dieu fait sa part, Dieu donne généreusement. Mais on a notre part à nous. On peut recevoir des choses, mais on est appelé à en faire quelque chose, à faire quelque chose de ce Saint-Esprit qui nous est donné. Je l'ai dit, il y a toujours ce libre arbitre dans chacun de nos choix. Et nous l'expérimentons tous. Bien que né de nouveau, combien de fois manquons-nous la cible? Parce qu'on est appelé à mettre en œuvre. Il nous donne un cadeau, il nous donne quelque chose, mais il y a une mise en œuvre. Il y a des actes qui sont attendus. Alors, quelles ont été les erreurs de Saül? Pourquoi Dieu a-t-il dit ces paroles si fortes? Je regrette mon choix. Alors, on va regarder ça ensemble. Vous êtes encore là? J'ai dit, hein, je ne peux pas faire plus vite résumé que j'ai résumé. Hein. Alors, la première erreur de Saül, c'est d'être sorti de son rôle. En fait, il a agi avec précipitation. Donc, je vous raconte vraiment l'histoire rapidement. Donc, il y a un peu de temps qui s'est passé, environ 2 ans. Israël est toujours en guerre contre les Philistins. Ça, c'était normal. Il se trouve encerclé par une grande, grande armée. Et puis, il doit attendre Samuel. Ils ont un rendez-vous. Samuel doit venir pour faire l'Holocauste. Parce qu'avant d'entrer en combat, c'est important d'offrir des sacrifices au Seigneur, de lui demander sa faveur, de lui demander sa présence. Et Samuel n'arrive pas. Et l'armée est toujours là, donc il a peur. Et puis l'armée ennemie, et puis les gens qui sont censés être avec lui commencent à rentrer chez eux. En gros, c'est un peu ça. Ils commencent à déserter, quoi. Ils commencent à partir. Et puis là, lui, il commence un peu à flipper. Et puis il décide de faire lui-même l'Holocauste. Il dit, on ne va pas encore attendre Samuel, maintenant il faut y aller. Hein, puis il faut qu'il voit que il faut qu'il se passe quelque chose, et puis on va y aller, et puis on va chercher la faveur de Dieu, et c'est parti. Et puis voilà que Samuel arrive, et puis il dit, mais tu fais quoi? Tu fais quoi, Saül? Il se passe quoi? Puis, mais tu vois, t'arrivais pas, hein, imagine, t'arrivais pas, et puis maintenant, il fallait y aller, et puis il explique tout ça, et puis il dit, ouais, mais c'est pas toi qui peux faire ça. T'as pas suivi les instructions. Hein, parce qu'évidemment, il ne pouvait pas lui-même faire le sacrifice, il fallait que le prêtre le fasse. Donc, à partir de là, c'est directement le rejet de sa royauté, c'est très fort, on le lit ensemble. Samuel va lui dire, tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement de l'Éternel ton Dieu, que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. Donc Saül avait de bonnes excuses, mais ça ne passe pas. Et déjà là, il apprend qu'il y a quelqu'un d'autre. Dieu s'est choisi quelqu'un d'autre, un homme selon son cœur. Et c'est une mention importante, parce que bien sûr, ça annonce l'arrivée de David. Hein. Et David, on sait qu'il était petit, c'était le dernier de ses frères, c'était celui qu'on n'attendait pas, celui qu'on n'allait pas chercher lorsqu'on parlait de combat. Hein. Et lorsque Samuel doit le désigner, donc Samuel aura versé l'huile sur Saül, mais aussi sur David, et quand il va choisir David, eh ben, il pense d'abord que c'est un de ses frères, Eliab, qui est grand, qui est costaud, qui est fort, comme Saül. Puis l'Éternel lui dit, non, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc on voit que dans ce second choix-là, les critères sont différents. Comme si Dieu a bel et bien choisi Saül, mais avec des critères qui correspondaient aux besoins du peuple, à la volonté du peuple. Le peuple voulait un roi comme les autres nations, grand, fort. Il leur a donné, puis il leur a montré aujourd'hui, la deuxième fois, il leur a montré que ce n'était pas forcément les bons critères. Mais revenons à notre texte. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Saül n'attend pas Samuel. Saül a peur de perdre des hommes, de se faire battre, et donc il agit rapidement. Du coup, il sort de son rôle, il fait ce qu'il n'est pas habilité à faire, il n'est pas oint et appelé pour ça. Donc, premier apprentissage, ne fais pas le boulot des autres, mais fais le tien avec confiance en Dieu. Hein, puis je pense que c'est un bon apprentissage, n'est-ce pas? Je me souviens d'avoir fait une fois le boulot de quelqu'un d'autre, et puis j'ai failli m'en vouloir. Je vous raconte ça rapidement. Je visite un patient, je visite un paroissien à l'hôpital, et puis voilà que la poche, le goutte à goutte, est vide. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe quand la poche est vide ? Bip, 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 bip. Hein, c'est insupportable. Alors on avait déjà eu un petit moment ensemble, mais c'était le temps de prier. Et puis quand c'est le temps de prier, et puis que tu es dans un hôpital, il faut être assez rapide. Hein, parce que tu n'es pas tranquille longtemps. Vous savez, il y a toujours des passages, toujours des gens à droite, à gauche. Donc c'était le moment. Puis là, il y a le bip, bip. Non, pas le bip, bip. Et là, il appelle l'infirmière. Mais l'infirmière ne vient pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, elle ne vient pas. Et là, mon ami me regarde avec un regard que moi, je traduis « Fais quelque chose, Luc ». Je regarde l'appareil et puis, allez, j'appuie sur un bouton. Le bip-bip s'arrête. Ah, on est content, on est content. Il me dit, ah ben, tu t'y connais, hein. Je fais, ouais, l'habitude des visites. Hein. Bon, ok, on prie et puis on se dit au revoir, on se quitte, je commence à mettre mes affaires. Puis là, deux infirmières arrivent elles ont attendu longtemps, donc elles sont un peu pressées, tout ça. Puis elles voient ce truc, elles voient que c'est vide, elles voient que c'est éteint, elles ne comprennent pas trop. Puis lui, il fait encore une. Moi, j'étais presque sur le point de partir, et puis il fait encore une remarque, style oui, c'est mon pasteur, il arrête, là, il s'y connaît. Et là, je vois un regard de l'infirmière vraiment méchant, quoi, fâché, quoi. Qu'est-ce que t'as fait, quoi? Alors là, bonne journée. Je ferme la porte et dans l'ascenseur, je suis mal, quoi. Je dis mais purée, mais je me fais reprendre intérieurement. Mais qu'est-ce que t'as fait, quoi? Pourquoi t'as pensé que c'était ton job d'appuyer sur ce bouton quand même? Voilà, t'es pas un médecin, t'es pas un infirmier. Pour qui tu t'es pris, quoi? Ça aurait pu quand même être grave, je ne sais pas, même si tu envoies de l'air dans les veines, hein, c'est jamais trop bon. Hein. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il aurait pu se passer. Mais voilà, je me fais reprendre. Ce n'était pas mon boulot, ce n'était pas ma responsabilité. Et puis j'ai voulu un peu faire le malin, plutôt que de rester dans mon appel. Mais voilà, j'étais dérangé parce que je ne pouvais pas faire ce que j'étais appelé à faire. Le temps passait, et puis moi, je n'avais pas non plus toute la nuit, hein, donc à un moment donné, il fallait qu'on puisse prier, quoi. Il fallait que ça avance un peu. Et puis mon interprétation du regard de la personne que je visitais me disait, mais fais quelque chose. Donc, voilà. Mais je n'ai pas agi de la bonne manière. J'aurais pu attendre, j'aurais pu aller chercher une infirmière, j'aurais pu faire confiance au Seigneur, simplement, que ça allait se régler. Donc prendre de mauvaises responsabilités, faire le job des autres, peut être dangereux, et puis spirituellement, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. La meilleure chose pour s'éloigner de notre appel, c'est de faire ce que Dieu ne nous demande pas de faire. Ça, ça marche à tous les coups. Et puis, ça nous arrive trop souvent. Alors, la seconde erreur de Saül, c'est de ne pas avoir écouté. Une erreur bien classique. Saül n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit. Et puis voilà qu'on est dans un deuxième combat, un autre combat. Et puis Dieu lui dit de détruire les Amalécites et tous leurs biens. Et puis voilà qu'il va épargner les meilleures brebis, les meilleurs agneaux, les meilleurs bœufs et tout ce qu'il y avait de bon, nous dit la Bible. Donc il a désobéi. Et Samuel vint à nouveau à sa rencontre pour avoir des explications vers ce cher Saül. Et puis Saül semble vraiment tout décontracté. Quand on lit le texte, on a l'impression qu'il ne réalise absolument pas ce qu'il a fait de faux. Hein, vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà trouvé des personnes comme ça, vous venez leur dire quelque chose, puis ils ont rien compris. Hein, c'est un peu, lui, il est tranquille, il voit Samuel arriver, puis il dit « Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli tout ce que l'Éternel m'a dit. » Ah ouais, puis Samuel lui fait « C'est quoi les belles mots que j'entends ?» C'est dans le texte, hein, c'est quoi les belles mots que j'entends ? C'est quoi les vaches là que j'entends ?»« Ah ça ! Ah mais ça c'est les autres !» Ah non, mais ça, c'est le peuple. En fait, ils ont voulu garder quelques bons bœufs, bons agneaux, etc., pour faire des sacrifices pour l'Éternel, ton Dieu. Hein? C'est le peuple pour faire des sacrifices pour ton Dieu. Donc, pour la deuxième fois, Samuel va annoncer à Saül qu'il va perdre sa royauté parce qu'il a désobéi. Et suite à cette situation, Samuel va dire ceci, c'est un passage clé. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Mais ce qui me parle dans l'attitude de Saül, c'est qu'il ne semble vraiment pas se rendre compte de la gravité de son erreur. Il ne prend pas la parole de Dieu, en fait, au sérieux. Il ne prend pas la parole de Dieu à la lettre. Il en fait une approximation. Il dit avoir accompli sa parole parce qu'il a détruit les Amalécites, c'est vrai. Mais ce n'est pas exactement ce que Dieu lui avait dit. C'est comme si ça lui suffit. Il dit, ben finalement, j'ai fait le job, quoi. J'ai fait le plus important, c'était quand même ça. Mais Dieu n'est pas comme ça, Dieu est précis. C'est comme s'il n'y a pas de crainte de l'Éternel. Il y a un manque de compréhension de la sainteté de Dieu. Et finalement, dans sa première erreur, l'attention n'était pas mauvaise. Mais là aussi, c'est une approximation. Il devait se dire, bon, ben, ce n'est pas à moi de le faire, mais bon, l'essentiel, c'est que ce soit fait. Et ici, il se donne une excuse très spirituelle, incroyable. Mais quand même, c'était pour faire des sacrifices. Hein, c'est pas moi, c'est le peuple qui regarde des animaux pour faire des sacrifices. C'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bien. Est-ce que nous ne sommes pas parfois dans cette même approximation ou désinvolture vis-à-vis du Seigneur ? On fait un peu, mais pas complètement ce que Dieu nous demande. Puis on se dit, bah, c'est quand même déjà pas mal. Hein, puis si on regarde à côté, franchement, on est déjà, on fait déjà vachement mieux que les autres. Hein. Donc ça va quand même. Ils devraient être contents. Alors évidemment, il y a la grâce. Hein. Sauvés, nous le sommes, c'est certain. Mais allons-nous accomplir les œuvres qu'il a pour nous ? C'est ça la question. Est-ce qu'on va accomplir les œuvres qu'il a pour nous ? Pas un peu près, mais vraiment les œuvres qu'il a pour nous. La parole nous dit que nos œuvres vont nous suivre. Hein. Donc c'est quand même important d'accomplir ce que Dieu nous demande, et pas en à peu près. Pour qu'il y ait des œuvres, il faut de l'obéissance. Et tout comme Saül, on sait assez bien se justifier en mettant la faute sur les autres, ou par des versets bibliques, hein, pour dire « ouais, mais parce que si et ça », on est bon pour ça. On peut même justifier un adultère en disant « faire de l'évangélisation hein. ». Bon, je vais chercher loin, mais c'est vrai. Donc, ça peut aller très loin, nos excuses. Mais bien avant ça, il est essentiel de se rappeler que ce qui fait plaisir à notre Seigneur, c'est l'obéissance. Donc, deuxième apprentissage, plus tu obéis au Seigneur, plus tu iras loin dans ton appel, dans ton ministère. Parce que l'obéissance ouvre en fait des portes. Si tu obéis à ce que Dieu te demande, c'est un pas en avant. Et puis, il va pouvoir te donner autre chose, puis tu vas pouvoir aller plus loin. Mais si tu refuses d'obéir même pour ce premier pas, bah, tu vas rester sur place. Alors oui, ça ne remet pas en cause forcément ton salut, d'accord, mais où sont les œuvres ? Moi, j'ai envie que mon Seigneur me confie davantage. Et toi ? Alors, l'obéissance, on sait que c'est difficile, c'est ce qu'on apprend, on essaie d'apprendre à nos enfants. Hein, et puis, parfois, c'est juste une consigne simple qu'ils n'arrivent pas à respecter. C'est fou. Encore hier, ma femme dit à mon fils, « Passe pas là !» Je suis en train de panosser, hein, de passer la serpillière pour ceux qui ne sont pas du coin. Hein. Passe pas là, ne viens pas. Ouais, mais maman, je dois juste pas. Non, je t'ai dit non. C'est pas possible. Mais c'est dur pour eux d'accepter de respecter vraiment. Et puis s'ils ne respectent pas, comment on peut leur faire confiance? Puis comment leur donner plus de tâches s'ils ne font pas les petites tâches qu'on leur demande? Donc avec Dieu, c'est exactement le même principe. On est des grands enfants et on doit apprendre l'obéissance. Troisième erreur, la jalousie. Saül devient jaloux de David qui monte en puissance et qui a la faveur de tout le peuple. La jalousie, c'est bien connu. Mais là, imaginez, il y a des femmes en plus qui chantent les louanges de David. Et elles disent « Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000 ». Alors imaginez, t'es le roi, puis t'entends ça. Donc Saül, il devient jaloux. Et c'est quasi obsessionnel. Il veut absolument tuer David. Donc ça montre bien son insécurité, son mal-être. Saül se sentait menacé par David. Et peut-être bien que David lui reflétait aussi ses propres erreurs, parce qu'il savait à ce moment-là que c'était celui qui allait le succéder, que c'était celui qui était choisi de Dieu. Donc peut-être qu'il se disait, voilà celui que j'aurais dû être. Alors c'est le problème aussi de beaucoup de responsables, de chefs, de leaders. Ils sont jaloux d'une personne qui réussit là où eux ont échoué. Ça c'est classique. Ils peuvent être jaloux aussi de voir d'un coup ce nouveau collaborateur qui a des super relations, des super amitiés, qui est bien payé, qui avance dans l'entreprise, etc. Et puis ils peuvent se sentir menacés si une personne sait mieux ou plus ou semble plus compétente qu'eux. Alors, on se dit, la personne va prendre ma place, elle va me ridiculiser, elle va voir que je ne suis pas compétent. Donc, du coup, il faut trouver une solution. Alors, il n'y aura pas de meurtre, je vous rassure, mais il faut trouver une faille. Il faut trouver une faille chez la personne, ou bien il faut l'écraser. Il faut mentir, il faut calomnier, il faut mober. C'est très, très connu aujourd'hui, le mobbing, pour se débarrasser d'une personne devenue gênante. Mais en fait, c'est l'insécurité, c'est la peur. Donc, troisième apprentissage, ne crains pas ceux qui sont meilleurs que toi, car c'est toi que Dieu a appelé. Et finalement, on sait que David aurait pu tuer au moins deux fois Saül. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il a dit « Je ne toucherai pas à loin de l'Éternel ». Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que alors que lui-même était déjà loin, il reconnaît encore que Saül est loin et qu'il ne veut pas le toucher. Donc il y avait tout, en fait, il n'avait pas à avoir peur, Saül. Il allait faire le temps que Dieu lui avait préparé. Il n'avait pas à être dans l'insécurité parce qu'il était quand même loin, il était quand même appelé. Donc on peut se réjouir des personnes qui sont à nos côtés, qui sont formidables, qui sont meilleures que nous. On peut s'en réjouir, on peut les encourager, on peut reconnaître leurs capacités et être certain qu'on est à la bonne place quand même. Dieu nous a appelés et ça c'est bon. Alors suite à ces différentes erreurs, cette fois j'arrive au bout les amis. Merci pour votre patience. La parole nous dit encore ceci. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Quelle tristesse, n'est-ce pas, de perdre l'esprit de Dieu. Et non seulement de le perdre, mais d'avoir un mauvais esprit qui prend la place. Et ça a été un grand apprentissage pour David aussi. C'est comme si c'était devenu une possibilité, peut-être que, je ne sais pas s'il s'en rendait compte ou pas, mais lui-même, après son adultère avec Bathsheba, dont ce psaume 51, qui est un psaume de repentance extraordinaire, il va dire ceci, « Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. » C'est comme s'il avait vu que c'était possible. Il avait vu ce qui se passait. Il dit, « Moi non, j'ai fait une erreur, mais je vais me repentir, je vais revenir à toi, mais Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Alors, bonne nouvelle, le Seigneur ne va pas nous retirer son Esprit Saint à nous, parce qu'il a choisi de nous le donner avec abondance. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est vrai. Mais il y a quand même des conséquences, évidemment. Lorsqu'on s'éloigne du Seigneur, il y a un silence dans notre relation, il y a une distance qui se crée. Et peut-être que plusieurs ce matin aviez reçu un appel clair, mais vous vous êtes éloigné par des circonstances, des choix. Et puis j'avais envie de vous dire ce matin qu'il est possible ce matin de revenir à cet appel, parce que la grâce, elle est pour vous. Il ne retire pas son appel comme il le faisait dans l'Ancien Testament, il ne retire pas son appel. Son appel reste valable. Mais c'est nécessaire d'avoir un retour au Seigneur. On peut bien sûr s'en éloigner, on peut être tenu à l'écart pour un temps, mais il est toujours possible de revenir à votre premier appel. Ce n'est pas trop tard. Peut-être vous dites maintenant, oh, maintenant c'est passé, maintenant je suis trop vieux, maintenant si. Non, ce n'est pas trop tard. C'est peut-être pour l'un ou l'autre ce matin. Donc je termine en disant que Saül avait tout pour bien faire, mais finalement c'est son manque de relation avec Dieu, son manque d'écoute, d'obéissance qui l'ont coupé de Dieu. Il n'a pas pris au sérieux l'appel. Et je vous ai déjà dit la dernière fois, suivre Jésus, ce n'est pas un hobby, puis j'ai envie de leur dire, ce n'est pas un hobby de suivre Jésus. L'appel qu'il vous adresse, ce n'est pas éventuellement, peut-être si j'ai le temps, c'est du sérieux. Donc prenons en sérieux cet appel qu'il nous adresse. Saül était grand, fort, il avait reçu l'Esprit de Dieu, mais il n'avait pas cette humilité, ce cœur qui recherchait l'Éternel. D'ailleurs, on le voit dans le texte, c'était le Dieu d'Israël, le Dieu de Samuel. Mais ce n'était pas véritablement son Dieu. Donc il a cherché à plaire à Dieu en faisant des choses, en étant peut-être même généreux, mais il n'a pas obéi. Et l'obéissance, c'est la clé. Il pensait qu'une obéissance approximative suffirait. Moi, je vous dis que non. Alors voilà, on va juste terminer en baissant la tête. Donc on a vu trois erreurs de Saül, sa précipitation qui l'a conduit à faire ce qu'il n'était pas appelé à faire, sa désobéissance qui l'a conduit à faire qu'une partie de la volonté de Dieu, puis sa jalousie qui l'a conduit à vouloir faire mourir celui que Dieu avait désigné pour lui succéder. Alors ce matin, l'idée c'est de pouvoir en tirer quelque chose pour nous, pour notre appel, pour notre vie. Que fais-tu que le Seigneur ne te demande pas ? Que fais-tu que le Seigneur ne te demande pas ? Quelle responsabilité portes-tu que tu n'as pas apportée ? Est-ce que tu agis sous la pression des autres ou est-ce que tu attends le temps de Dieu ? Le Seigneur aimerait nous inviter à nous concentrer sur ce qu'il nous demande à faire de manière précise. C'est vraiment important, au mot près, pas un à peu près. Il n'aimerait pas qu'on fasse les choses à notre sauce. Il cherche vraiment notre obéissance. Dans les petites choses, dans les petits détails, pour pouvoir nous en confier de plus grandes. Puis ce matin, il aimerait encore nous redire que nous sommes choisis, appelés, qu'il a un rôle pour nous, il a une place pour nous dans cette équipe. Donc ne regarde pas aux autres, ne sois pas jaloux de ceux qui sont à ta droite ou ta gauche ou ceux qui semblent marquer des buts. Tu fais partie de l'équipe et il t'a tout donné pour que tu sois satisfait, pour que tu aies tout en abondance. Il désire vraiment te combler ce matin. Alors voilà, je vais simplement prier. Il est tard, je ne vais pas faire d'appel plus long, mais qu'on puisse vraiment saisir cela. Jésus, merci. Père, merci pour ta parole encore ce matin. Merci pour ces bons exemples que tu nous donnes dans la parole et puis aussi ces moins bons exemples où on peut apprendre. On peut ne pas vouloir faire les mêmes erreurs. On ne veut pas être des Saül ce matin. Mais au contraire, Seigneur, on désire avoir ce cœur qui te plaît, ce cœur tendre, ce cœur qui sait se repentir de ses erreurs et ce cœur qui choisit de t'obéir. Au mot près, pas un peu près. Seigneur, tu me connais, moi je suis plutôt quelqu'un dans les grandes lignes, je n'aime pas les détails. Mais Seigneur, tu m'apprends et tu nous apprends ce matin à faire les choses dans les détails, à t'écouter parfaitement. Seigneur, on a besoin de toi. Merci pour ton appel sur chacun, merci pour la place que tu nous donnes. Merci de redire ce matin à celui qui avait mis son appel de côté parce que peut-être il s'est senti disqualifié, parce que peut-être il a fait des choix qui l'ont éloigné de toi, mais qui est là ce matin. Seigneur, merci de lui rappeler à sa mémoire ce que tu avais dit sur sa vie et l'appel que tu avais mis sur lui, parce que tu ne l'as pas oublié, toi. Merci Seigneur pour la place que nous avons chacun dans ce corps. Chacun a ce rôle. On veut faire taire aussi toute jalousie. On veut refuser de regarder à droite et à gauche. Toi. Amen. Amen. Un grand merci pour votre écoute et votre patience.